On va parler d'autres choses et d'autres choses, je dirais, beaucoup plus lourdes, là. On change de registre. Bonjour, Madame Danielle Piché. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directrice, vous êtes directrice générale de l'association Emmanuel, qui se dévoue à trouver des familles pour adopter des enfants à besoins particuliers, qui exige une grande implication de la part de la famille d'adoption. Il y a eu quelques articles, quelques chroniques, entre autres, je pense, de Stéphane Laporte, dans les dernières semaines. Puis moi, ça m'a bouleversé d'apprendre qu'il y a une trentaine d'enfants au Québec qui ont été abandonnés, littéralement. Comment est-ce que ça s'explique? Comment des parents peuvent juste quitter la pouponnière puis dire « Non, nous, ça ne marche pas pour nous, on s'en va? »
Non, c'est pas aussi simple.
Non, hein?
Non, mais il y en a qui ont simplement des incapacités parentales, d'autres souffrent de toxicomanie, d'autres, bon, ils peuvent être malades également.
Oui.
Donc, non, on n'abandonne pas un enfant comme ça, là.
Oui, ben c'est ça, ça semblait un petit peu, ça ressemblait à du Victor Hugo, là, l'enfant abandonné sur le parvis de l'église, là. Mais sérieusement, ouais. Il n'en demeure pas moins que le sort de ces enfants-là est maintenant entre les mains de la société. Puis...
Tout à fait, oui. C'est ça. Ils sont sous la responsabilité des centres jeunesse.
D'accord. Et c'est quoi le cheminement? Comment est-ce que chez l'association Emmanuel, vous en venez à pouvoir les aider? Comment fonctionne toute cette démarche-là?
Donc, comme je disais tout à l'heure, ces enfants-là sont sous la responsabilité des centres jeunesse. Parfois, évidemment, quand ils ont des enfants en besoin particulier, c'est un petit peu plus difficile de trouver des familles.
Oui.
Donc, ils nous interpellent avec certains dossiers. Parce que nous, on le fait sur une base régulière. C'est très peu connu, mais ça fait quand même près de 37 ans que l'on fait ça. Oui. Donc, ils nous présentent, ils nous partagent le dossier. Ceci dit, les parents doivent toujours faire les démarches auprès du centre jeunesse. Donc, participer aux demandes d'information, le centre jeunesse va faire également des évaluations. Et nous, parallèlement à ça, on est un facilitateur autant pour les familles que pour les centres jeunesse. Donc, on accompagne les familles avant, pendant et après tout le processus. Donc, s'ils ont des questions, s'ils ont des insécurités également, donc s'ils veulent en savoir plus sur une maladie donc ou une condition quelconque, on est là justement pour appuyer la famille. Parfois, ils voient ça comme une grosse montagne, mais quand on explique, bon, c'est quand même mieux. Mais voilà, ça, c'est quand même plus près de 37 ans qu'on fait ça. Et on ne se substitue pas surtout au centre jeunesse, à rappeler qu'ils sont sous leur responsabilité. Et nous, ben, ce qu'on veut, c'est trouver un foyer pour la vie à ces enfants-là. Le meilleur foyer également, parce que c'est pas tout de trouver un foyer,
oui.
Mais il faut qu'ils répondent bien aux besoins de cet enfant-là. Alors, il faut que la famille se sente confortable,
ouais,
avec le handicap. C'est pour ça qu'on leur demande de nous indiquer quel type de handicap ou de conditions avec lesquelles ils sont confortables pour faire le meilleur jumelage possible.
Parce que la bonne volonté de la famille d'accueil, la famille qui va adopter l'enfant de façon permanente, cet enfant-là va devenir un membre de cette nouvelle famille. Il y a beaucoup de bonne volonté et de générosité de cœur dans ces familles-là qui se portent volontaires, mais il faut aussi s'assurer que toute cette générosité soit appuyée sur un certain réalisme, là. Il ne faut pas négliger,
oui,
que ça va être du quotidien.
Oui, exactement, parce que oui, c'est sûr que quand on voit des profils comme on a lu, ça prend au cœur, c'est certain. Toutefois, trouver une famille, puis que dans 2 mois, on est obligé d'en retrouver une autre, mais ça ne rend pas service à l'enfant. Donc, c'est pour ça, tu sais, les gens disent c'est long, mais oui, mais pendant qu'ils font la démarche, ils font également le processus dans leur tête.
Oui.
Puis il y en a qui, en cours de route, ils disent, ben non, finalement, c'est peut-être pas pour moi.
Exact, oui, parce que il faut, c'est un fait que d'une certaine, je comprends que le côté fastidieux de la démarche est en même temps un test sur la détermination de la famille à recevoir un enfant.
Ben oui, oui.
Indirectement,
oui.
Ça a un petit peu cette... mais il n'en demeure pas moins qu'il y a, dans, dans notre société des familles qui sont généreuses et capables.
Oui, tout à fait. Puis nous, la beauté, pourquoi aussi les centres jeunesse nous interpellent, c'est qu'on travaille avec tous les centres jeunesse sur le territoire québécois.
D'accord.
Donc, tu sais, on veut pas raccourcir les processus, mais par contre, si on peut raccourcir des délais, parce que nous, on a identifié, on va dire, un enfant à Saguenay, il n'y a plus de droits parentaux. C'est un exemple que je vous donne.
Oui, oui, je comprends.
Qu'il n'y a plus de droits parentaux. Ben là, peut-être, oui, qu'on pourrait le présenter à Montréal ou dans un autre centre jeunesse. Donc, on regarde la condition de chacun des enfants, parce que oui, il y a plein de choses à considérer là, dans les jumelages.
Est-ce qu'il y a des familles, je dirais, récidives, dans le sens parfois adoptent plus qu'un enfant à la longue? Est-ce que c'est arrivé?
Bien sûr, d'ailleurs, dans le Journal de Montréal, dans l'article, dans le dossier qu'il y avait, je pense qu'elle était rendue, elle en avait deux, elle voulait en adopter deux autres. Non, même j'en connais une, mais en ont déjà adopté trois enfants trisomiques. Mais on les voit, ils sont super heureux. De là l'importance de bien prendre le temps de bien faire arrimer les deux profils famille-enfant.
Et on parlait évidemment que le centre jeunesse est au centre de toute la question du suivi social et santé de l'affaire. Votre collaboration, tout de même, ne s'arrête pas au jour de l'adoption, parce qu'après ça, vous avez un suivi aussi.
Mais tout à fait. On est toujours là pour les familles. Si elles ont un souci par la suite, elles nous appellent. Toutes les insécurités, elles nous appellent. C'est correct. Puis en plus, on a développé des outils. Et on donne des formations sur l'attachement et le trauma. Donc, on organise également des journées de rassemblement, je pense, des week-ends de rassemblement, devrais-je dire. Je pense au Noël Emmanuel. Ce sont toutes les familles,
qui se retrouvent au même endroit. Ah, mais c'est bien.
Oh oui, puis il y a des enfants là-dedans, parce que nous, on les appelle toujours des enfants, là. Il y a des enfants là-dedans qui ont 34 ans.
OK.
Et ils maintiennent le lien, puis entre eux, c'est parce qu'ils se donnent. Les plus anciens sont en mesure également de... Ils l'ont vécu, ils savent ce que c'est. Ouais. Donc, avec les nouveaux parents, ils sont en mesure de les guider là, dans cette démarche-là aussi.
Parce que, oui, je dirais le rapport aux pères qui vivent la même situation... Mais là, comme vous dites, il y a une transmission, puis en même temps, c'est rassurant de voir que d'autres personnes l'ont fait avant nous et qu'on puisse... Voilà, on n'est pas tout seul. Parce qu'on doit se sentir tout seul. Le premier soir, là, on accueille l'enfant, on ferme la porte, on dit « Bon, OK, par où on commence? »
Oui, il faut être en mode observation, je dirais, un certain temps, parce que l'enfant aussi, hein, si nous, on est, en tant qu'adultes, nous sommes perturbés, imaginez l'enfant, on connaît pas le vécu, tu sais, si on donne des formations sur l'attachement et le trauma, il y a des raisons, on connaît, tu sais, le parent, lui, a le vécu, mais... Tu sais, c'est quand même, il y en a là-dedans qui ont quand même une historique assez lourde.
D'accord.
Donc, on ne peut pas les bousculer. Il faut être en mode, je dirais, il faut observer, essayer de les comprendre, puis s'ajuster. C'est toujours un ajustement. Donc, se comprendre.
Ben, il faut donner du temps aussi. Il ne faut pas penser que le premier week-end, là, ça va ressembler à un conte de fées. Il faut accepter que... On parle d'êtres humains qui ont, comme vous dites, ont été passablement... ballotté par la vie. Et qui souvent ont des difficultés d'adaptation inhérentes. Qui en plus, ça s'ajoute à ça. Le nombre d'enfants qui sont dans cette, je dirais, en attente d'une adoption de ce genre-là a beaucoup augmenté. Est-ce que c'est la COVID? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bonne question. Qu'est-ce qui explique tout ça? Peut-être la COVID, je sais pas, peut-être que les parents aussi changent. Avant la naissance, qu'on avait un enfant qui serait trisomique, mais on avait peut-être des choix qui s'offrait pas nécessairement à nous et qui s'offre maintenant. Tu sais. Mais je ne sais pas c'est quoi la bonne raison. Je pense que c'est vraiment une multitude de choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, soit qu'ils décident de le donner en adoption ou... vous savez, c'est aussi un geste d'amour. Hein, quand on sent qu'on n'a pas cette capacité-là de bien... d'être au service quand même de cet enfant-là. Parfois, c'est mieux de...
Ça prend de l'humilité de reconnaître son incapacité plutôt que de s'obstiner et de tenir à l'enfant comme si c'était un objet qui nous était propre, là, sans méchanceté.
Oui, qu'il soit maltraité, pas nécessairement battu, mais maltraité dans le sens qu'on ne répond pas à son besoin. Et lui, l'enfant ne s'épanouira pas. Et puis le parent aussi, il peut se sentir face à un échec. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas agréable.
C'est certain. Les profils que, en fait, tout ça vous arrive par le biais des centres jeunesse. Est-ce qu'il y a des enfants qui... Évidemment, il y en a qui doivent rester un petit peu plus longtemps là, sur la touche, je suppose, pour toutes sortes de raisons. Qu'est-ce qui arrive rendu à l'âge adulte?
Honnêtement, ils doivent aller dans des endroits spécialisés parce que dans les nouveaux-nés, on en a qui sont à l'hôpital, on en a dans les jeunes, les centres de réadaptation, familles d'accueil. Mais quand ils arrivent à 18 ans, il peut y avoir du placement à majorité aussi. Donc, cette possibilité-là, la famille d'accueil peut décider de garder avec lui, mais c'est du cas par cas, ça, très honnêtement. Nous, les familles avec lesquelles on travaille, en général, demeurent avec eux pour la vie.
Et c'est ça, je pense, la beauté de votre mission, c'est parce que d'être d'une famille d'accueil à l'autre, l'enfant n'atteindra pas son plein potentiel. S'il y a un milieu familial sain, stable, puis il y a des liens qui se développent, l'être humain va fleurir, si je peux dire.
Ben oui, absolument. Puis même des parents, on s'était fait dire, ils ne parleront jamais, ils ne feront jamais ci. Puis finalement, en cours de route, ils ont tellement eu de bons soins. Ils ont été attentionnés, ils ont été là pour l'enfant, qu'ils ont des belles surprises.
Exactement. Ça prouve que avec de l'amour et du temps et de la patience, tout est possible. Madame Piché, merci beaucoup. Peut-être que votre témoignage aura touché le cœur d'une famille et que quelqu'un ira frapper à votre porte avec les bras grands ouverts.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.